Bonsoir et bienvenue dans la séance du dimanche. Au programme ce soir, un épisode consacré au vertigineux Paprika de Satoshi Kon, à l'occasion de sa projection le 15 mars prochain au cinéma Le Brady, dans le cadre du ciné-club Le Breakfast Club. Nous avons aujourd'hui une représentante de ce ciné-club, car même si Lucas ne peut malheureusement pas participer à l'émission, nous sommes tout de même en bonne compagnie. Bonsoir Maï, comment vas-tu ?
Bonsoir, je vais très bien, merci.
Alors je suis désolé pour les petits problèmes de son qu'il y aura tout au long de l'émission, car c'est moi qui suis derrière les manettes, car Victor non plus ne peut pas être présent. Autour de moi, il y a quand même deux autres membres de la fidèle équipe de Vitamine Ciné. Bonsoir Adeline, comment vas-tu ?
Ça va et toi Nicolas ?
Ah bah, très bien. Je ne sais plus où donner de la tête. Et bonsoir Louis, comment vas-tu ?
Bah, très bien, cette belle journée ensoleillée.
Belle journée avec un nouvel outfit d'une marque japonaise.
Tout à fait. Toujours dans le thème de l'émission.
Évidemment. Et bah, écoutez, avant de commencer à se plonger dans les illusions de Satoshi Kon, on va peut-être rendre un petit hommage, on a l'habitude de le faire en début d'émission, à un homme de cinéma qui nous a quittés, c'était Douglas Trumbull.
On n'imaginait aucune façon plausible ou crédible ou visuellement spectaculaire de faire ça. Mais l'idée d'un tunnel devenait un concept prédominant. Et j'ai commencé à penser à mon travail avec John Whitney sur le projet Vers la Lune et au-delà. On laissait l'obturateur de la caméra ouvert devant quelque chose en mouvement pour créer du flou contrôlé, pendant qu'on bougeait des lumières, des vitres et des machineries complexes pour créer cette sorte de sentiment d'infini. Cette technique a tiré le film vers l'anticipation et une expérience de réalité alternative époustouflante. C'est une des choses dont je suis le plus fier.
Et donc c'était la voix de Douglas Trumbull, un grand architecte des effets spéciaux qui est mort il y a quelques jours, à l'âge de 80 ans. Donc je ne sais pas si vous connaissiez ce nom qui est un peu un nom très lié à la science-fiction, mais c'est un homme qui a commencé très jeune, à notre âge, quoi, à travailler sur 2001 Odyssée de l'espace, où il a fait notamment les effets spéciaux de fin du film, donc avec tout ce tunnel, ses lumières, etc. Et il a commencé à travailler là-dessus. Ensuite, il s'est consacré vraiment pas seulement aux effets spéciaux, mais à donner un nouveau sens au cinéma. Donc il a travaillé sur Blade Runner, sur Rencontre du Troisième Type, même sur Tree of Life. Je sais pas si vous voyez toutes ces séquences hallucinées avec des planètes, etc. C'est lui qui a été derrière la fabrication de ces effets spéciaux. Et toute sa vie, il aura cherché à constamment parfaire l'image. C'est un grand défenseur de la salle de cinéma. Je lisais encore il y a pas longtemps une interview de lui dans Revue et Corrigé, où il parlait vraiment, alors qu'il avait déjà 75, 77 ans, où il voulait que tout le monde continue d'aller au cinéma. Et donc, dès les années 70, il essayait de faire des nouveaux formats de films. Il appelait ça le Shoscan, c'était du 70 mm avec du 60 images secondes. Donc, des trucs qui sont encore discutés aujourd'hui, qui n'ont toujours pas lieu au cinéma, car au final, on a toujours plus ou moins la même qualité qu'il y a 50 ans, même si les techniques ont changé. Et donc, c'est quelqu'un voilà, qui a consacré toute sa vie au cinéma, et je pense que c'était important de lui rendre un petit hommage. On a entendu sa voix lors d'une interview pour Arte en 2016. Et je vous conseille donc un film qu'il a réalisé, parce qu'il a aussi réalisé deux films, qui s'appelle Silent Running. C'était un film de science-fiction, encore un peu dans le style, dans la lignée 2001, et précurseur de Alien, parce que c'est sorti en 72, Silent Running. Et c'est aussi un architecte qui a pavé la voie à Avatar, aux 48 images par seconde au cinéma, donc quelqu'un sans qui le cinéma ne serait pas vraiment pareil aujourd'hui. Donc voilà, c'est un petit hommage que je trouvais nécessaire.
Mais en plus, c'est une super métaphore filée, puisque de toute façon, la science-fiction, est ce qui est intéressant dans les personnes qui font tout ce qu'il y a autour de la science-fiction, en fait, c'est aussi créer un imaginaire et du coup des adaptations. Donc tu as parlé de Blade Runner ou des choses comme ça, et je pense qu'on en va en parler avec Satoshi Kon, mais du coup il y a aussi Philip K. Dick et le fait de créer et de réaliser un imaginaire. Et c'est vraiment ça qui est fort, et surtout dans ces périodes-là, 2001, Blade Runner, etc., c'est vraiment créer avec des moyens qui sont assez terre-à-terre.
Ouais, rudimentaire, parce que c'était vraiment des maquettes, des petites fibres de lumière, de la peinture.
Et en fait, c'est super intéressant quand on regarde maintenant ce qu'est la science-fiction et qu'est-ce que sont les effets spéciaux de nos jours, où on se dit que c'est peut-être presque trop simple et trop facile à faire. Il y a une époque où il y a des choses qui sont impossibles à faire et qu'on va créer quand même avec des petits moyens et des petites choses. Et en fait, vraiment, je trouve qu'à cette époque-là, les effets spéciaux, c'est vraiment un travail qui vraiment... Et on en reparlera avec Satoshi Kon, parce que du coup, là, les effets spéciaux sont complètement différents, mais parce qu'on peut créer à partir d'une matière qui est l'imaginaire. Mais c'est vraiment faire fonctionner des choses pour que ça soit possible, en fait. C'est ça qui est dingue, c'est que malgré le fait qu'on est notamment dans The Tree of Life dont tu parlais, dans quelque chose qui est complètement imaginaire, genre les planètes, enfin, c'est pas imaginaire, mais c'est le cosmos et des choses comme ça, ça reste très possible. On a presque l'impression que c'est des images de la NASA. Oui. Donc,
je sais pas comment il a fait à l'époque, enfin, c'était il y a 10 ans, mais c'est vrai que ça a un tel impact dans le film, on se pose même pas la question. Ça qui est fort avec lui aussi, c'est qu'il y avait des effets spéciaux tellement réels. Qui encore aujourd'hui, Blade Runner, enfin les maquettes n'ont presque pas vieilli. Et la preuve, ils en ont réutilisé dans le deuxième épisode. Et au final, il était tellement fort qu'on oubliait son travail presque derrière. Et donc je trouve que c'est passionnant vraiment de se replonger, d'essayer de comprendre comment il a fait. Voilà, c'était le petit hommage à Douglas Trumbull. Donc je vous conseille l'émission justement de Arte qui s'appelle Beats, que Rafik Djoumi lui avait consacré il y a en 2017, début 2017, auquel j'ai pris ce petit extrait, où il raconte très bien... qui était cet homme et pourquoi il a révolutionné le cinéma. Et donc voilà, maintenant on va un peu perdre pied dans les illusions de Satoshi Kon, mais avant ça, on va s'accrocher à la réalité, celle d'un ciné-club, dont voici un petit florilège des précédents événements.
Je vous écoute, je vous regarde, et je vous trouve tous très beaux.
Moi c'était Simone, mais on dit Mona.
T'appelles Mona ?
Ouais.
Bah, c'est bon, hein.
Vous êtes en panne ?
Non, je campe.
Par ce temps-là ?
Ouais, ça va.
Là, là.
Always do the right thing. Fight the power.
That's it.
Fight the power.
Et donc c'était un petit florilège des films qui ont été projetés ces derniers mois dans le cadre du Breakfast Club Cinéma Club. Le Ciné Club projettera donc Paprika de Satoshi Kon le 15 mars prochain, ainsi que Cemetery of Splendor de Apichat Pongo et Razeta Cool le 19 avril, et Réalité, auquel on avait consacré un épisode il y a un ou deux ans, le 17 mai prochain. Alors tout d'abord, Maï, est-ce que tu pourrais nous présenter cet événement, ce Cinéma Club ?
Alors, le Breakfast Club, qu'est-ce que c'est ? C'est une idée initiative des cinémas indépendants parisiens. Et donc, l'idée, c'était de confier la coprogrammation, la co-animation à des étudiants et étudiantes. Donc, on est 8. Et donc, l'idée, c'était de partir, pas de rien, quand même pas, mais de penser une programmation, des animations, de la communication. Donc, c'était avec du recul un peu titanesque, mais maintenant, là, je suis contente de ce qu'on a fait. Voilà, c'est un peu ça, le résumé.
Et peut-être, comment... Parce que vous êtes 8.
Ouais.
Et une première question perso qui me vient à l'esprit, c'est comment vous faites pour sélectionner les films ? Est-ce qu'il y a une thématique ? J'ai l'impression qu'il y a des thématiques filées. Comment vous faites pour vous mettre d'accord à 8 sur des films ?
Alors, il y avait deux thèmes. Donc, le premier thème, c'était Lutte et Révolution, qui s'est étalé d'octobre à janvier 2022. Et là, on lance donc, le second cycle, Utopie et Fantasme. Donc, à chaque fois, c'est 4 films. Et donc, pour décider la programmation, ça a été intéressant. Ça a été des discussions, dédicace à Elias, voilà, avec qui on a eu des débats, des discussions pas houleuses, mais animées, voilà. Et non, c'était, enfin, la programmation, pour moi, reflète vraiment notre groupe de 8 personnes, pour le coup. On a vraiment, pour que tout le monde soit dans la programmation. Donc, il y a eu des films sur lesquels on était d'accord très rapidement, comme Paprika ou Do the Right Thing, par exemple. D'autres films sur lesquels, voilà, on a vraiment dû faire des concessions, discuter, échanger, et aussi la pertinence par rapport au thème. Aussi en tant qu'objet de ciné-club, parce que c'est pas non plus une séance classique. Donc il fallait aussi penser à tous ces paramètres-là aussi. Donc ça a été, on a passé, je crois, 2 bons mois à penser à la programmation uniquement. Et ouais, mais c'est un très beau travail à faire, beaucoup, très enrichissant.
Et j'ai une question un peu similaire, au-delà de la programmation des films, comment est-ce que vous programmez toutes les animations qui accompagnent chacune des projections ?
Ça, on a déjà dû les penser, déjà, pour qu'il y ait un lien avec le film, déjà, et qu'il y ait vraiment que ce soit réalisable, parce qu'il y a des contraintes aussi de finances, sanitaires aussi, donc ça a été un peu plus long, pour le coup, on a eu un peu plus de temps. Bon. C'était quoi la question déjà ?
Comment est-ce que vous programmez toutes les animations qu'il y a avant et après les films ?
Trouver des invités déjà pour les animations, ça a été voilà, un vrai travail pour le coup nouveau pour nous de contacter des professionnels, des gens du milieu aussi et d'expliquer la démarche pour qu'ils aient envie de venir aussi parce que c'est pas rémunéré, enfin pas pour tout en tout cas. Et voilà, que ce soit attirant aussi et qu'il y ait aussi vraiment un renouveau aussi du débat classique de ciné-club aussi. Enfin voilà, c'était aussi penser des maisons qui soient originales aussi. Ça, c'était très cool à faire. Il y a eu des très beaux moments de cinéma, certes, mais aussi juste d'humain aussi.
Ouais, d'échange.
Ouais, voilà. Et pour le coup, oui.
Mais après, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les ciné-clubs. On parlait dans la dernière émission, quand on divaguait un peu sur ce qu'était la cinéphilie, sur notre rapport au cinéma, on disait qu'il y avait deux choses qui manquaient un petit peu aujourd'hui. C'était le fait de faire événement autour d'un film et, quand on est cinéphile, la volonté d'aller plus loin que le simple visionnage d'un film. Et c'est deux choses qui se retrouvent finalement dans ce qu'est un ciné-club et dans les initiatives d'un ciné-club. Et c'est pour ça que je suis toujours très content, moi, de connaître un nouveau ciné-club. Et si je suis à Paris lors des prochaines projections, je viendrai avec plaisir.
J'espère.
On peut citer peut-être les animations qui va y avoir. Donc pour Paprika, j'ai vu qu'il allait y avoir un ciné-quiz avec Pascal Alex Vincent.
Exactement.
Dont on va reparler un peu plus tard dans l'émission, parce qu'il a fait un documentaire qui s'appelle Satoshi Kon l'illusionniste. Et j'ai vu, c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça change à chaque fois les animations.
C'est ça.
Pour Cemetery of Splendor, je ne sais pas si Louis Adeline, vous l'avez vu ce film. qui est, donc je trouve que l'activité va très bien avec, car c'est de la méditation collective. Donc je ne sais pas quand ça arrivera.
Avec tisane aux chambres, je tiens à préciser.
J'ai vu, pour se mettre dans l'ambiance.
Donc, c'est ça.
Avant la projection ?
Avant ou après ?
Oui, avant la projection. Enfin, c'est vraiment de créer une sorte de communion totale méditative pour vraiment amener au film. Enfin, c'est vraiment penser aussi en fonction du film aussi.
Et ça rejoint aussi encore un autre élément dont on parlait dans la précédente émission, c'était le fait de la mise en contexte aussi autour d'un film, d'être dans le bon contexte et dans la bonne humeur pour voir et apprécier un film. Donc là, je pense que ça rejoint tout à fait ça.
Typiquement, le quiz, la fonction du quiz, je trouve que c'est très clivant parce que j'ai un souvenir traumatisant, attention, soyez prêts, sur La La Land, projection de La La Land, un ciné-quiz juste avant, je perds de quelques points en test sur les comédies musicales.
Et pourtant, tu perds quasiment jamais.
Alors que je suis si forte au quiz, en plus. C'était terrible. Je pense que c'est le début de la fin.
Toutes nos émissions en témoignent.
L'émission La La Land, je pense que ça a créé une malchance après et que je n'ai plus jamais gagné un seul quiz.
Oh bah non,
sur les comédies musicales, en plus, c'était horrible. Mon ennemi juré gagne ma place.
Mais là, pour la projection sur Satoshi Kon, enfin sur Paprika de Satoshi Kon, après cette émission et après l'avoir préparée, je pense que si tu
normalement,
au Brady, tu seras très forte.
Absolument que tu viennes.
Je vais me préparer, je vais m'entraîner tel Rocky avec Nicolas. Mais oui, et morale de l'histoire, j'ai détesté La La Land parce que j'étais...
À cause du quiz.
À cause du quiz, mon ennemi avait gagné et je ne veux plus revoir ce film parce qu'à chaque fois, je pense à ma blessure. Mais bon, j'espère que je vais gagner cette fois-ci.
Moi, j'ai une question un peu plus technique, t'es sur vraiment l'organisation du ciné-club. Mm-hmm. Parce que, donc c'est diffusé, j'ai vu que vous avez 4 cinémas qui sont partenaires.
C'est ça.
Le Brady, je ne me rappelle plus exactement.
Le Balzac.
L'Épée aussi. De Bois et l'Entrepôt.
Ok. Et est-ce que, donc je suppose que vous êtes bénévole, évidemment, pour faire ces ciné-clubs. Mais comment faire pour obtenir toutes les autorisations pour projeter les films, etc. Je suppose que ça doit être une galère sans nom.
Bah ça, pour le coup, je parle au nom de tout le monde dans l'équipe, personne ne savait comment faire. Et donc clairement, les cinémas indépendants parisiens ont vraiment été ultra présents, on est vraiment des personnes ressources dans ces cas-là, parce qu'on ne savait pas, donc ils ont tout expliqué, il y avait des réunions spécialisées dans la recherche d'un film, pour les droits, etc. Donc pour le coup, ils ont vraiment été très présents dans ces démarches-là, pour le coup, qu'on ignorait pour la plupart. Donc ouais. Mais du coup, j'ai appris plein de trucs, donc c'est trop cool.
Et du coup, par exemple, pour Paprika, on s'adresse au distributeur, par
exactement, pour demander si on peut projeter le film, donc, puisqu'ils ont les droits. Mm-hmm. Et donc, c'est à eux qu'on demande si on a le droit de le projeter avec une date, etc. Si c'est rémunéré ou pas, si c'est une séance payante ou pas. Enfin voilà, toutes ces démarches-là, pour récupérer le DCP après aussi du film. Donc,
Et du coup, ces cinémas avec lesquels vous êtes en partenariat, est-ce que... ils profitent de cette distribution, enfin de ce rapport avec le distributeur pour continuer à projeter ce film pendant un certain temps ou c'est toujours des séances uniques ?
Là, c'était vraiment des séances uniques pour le coup parce que c'est un projet qui est affilié du coup à une association. Donc c'était vraiment, voilà, chaque salle avait sa séance, du coup deux parce que chaque salle a deux séances puisqu'il y a deux cycles. Donc voilà, chaque salle avait sa séance et donc les revenus étaient reversés, oui, du coup à la salle et au distributeur, comme du coup on divise les entrées, voilà.
Est-ce qu'il y a déjà des distributeurs qui vous ont dit non ? Parce que je sais par exemple, Disney... Aux États-Unis, Disney dit non à pratiquement toutes les projections de leur catalogue étendu. Alors, si on veut projeter le premier Alien, ils disent ah non, vous n'avez pas le droit car c'est sur Disney+.
Quelle perte, mon Dieu.
Oui. Donc, est-ce que vous avez eu déjà des retours négatifs ou pas ?
Non, je crois pas. Après, des films qui n'avaient pas du coup distributeur en France, pour le coup, c'était pas possible parce qu'on ne pouvait pas récupérer les droits. Et donc, ça, pour le coup, c'est arrivé pour un ou deux films, je crois, qu'on avait sur la liste de programmation. On n'a jamais eu de refus. On n'a jamais eu de soucis pour l'instant avec les distributeurs concernant les films, non.
Donc ça veut dire que les films projetés sont que des premiers choix. Et ça, raison c'est de plus pour y aller.
Une preuve de qualité. Et peut-être que pour donner en... Est-ce que tu avais des questions?
J'avais une petite question.
Ah bah, vas-y.
J'aimerais revenir sur le titre qui fait sûrement référence au Breakfast, à The Breakfast Club, ouais, je vais y arriver,
non, c'est dur à dire.
De John Hughes,
oui.
Dont on a parlé, nous, dans une émission.
Auto-promo, bravo Louis.
Sur les teen movies, une émission consacrée aux teen movies, donc c'est un film voilà, qu'on aime bien, dont on avait parlé. Comment vous est venue cette idée de titre?
Alors le titre, c'est pas nous, c'est les cinémas indépendants parisiens.
D'accord.
Donc vraiment, ils sont arrivés avec le titre, les thématiques, et après du coup, voilà, on vous donne ça, et puis après du coup, voilà, on devait okay. prendre.
Mais du coup, est-ce que vous l'avez déjà projeté? Ce film.
Non, on avait une idée de le projeter à la fin. Au début, on avait je sais plus ce qu'on voulait faire. Ça s'est pas fait finalement. Mais oui, ça aurait été une bonne idée, effectivement. On va en discuter peut-être.
Et est-ce que après, du coup, ces matériaux plein dehors et réalité, vous avez déjà des petits scoops à nous donner pour les prochaines.
Des scoops, quand tu parles là.
Des projets.
Est-ce que vous avez des projets, des prochains films quoi, qui sont déjà prévus après réalité?
Bah non, parce que ça se termine du coup avec réalité, mais il y a, je pense, sans vouloir trop peut-être m'avancer, j'espère que je ne vais pas taper sur les doigts, mais qu'il y aura un prochain Breakfast Club avec une nouvelle équipe d'étudiants et étudiantes.
J'espère
que je ne vais pas me faire.
Non, mais on espère en tout
cas. Est-ce qu'il y avait eu un précédent ou vous êtes la première saison?
On est la première édition, ouais, donc il y avait tout à créer, et penser la com, etc. Ça a été un vrai travail pour le coup aussi, ouais, donc il y a une identité visuelle aussi, enfin voilà, une cohérence. Enfin voilà, c'est beaucoup de postes, mais pour le coup, on apprend plein de choses et ça, c'est vraiment super.
Eh bien, écoutez, on espère que ça vous donnera envie
J'espère.
D'aller à ce ciné-club.
Nous, on y sera.
Et ah oui, on y sera. Et on y sera pour parler d'un film qui s'appelle Paprika. Écoutez, pourquoi pas écouter la bande-annonce de suite.
One, two, three.
In the very near future, a group of brilliant scientists have created a machine that can control our dreams. But now, the device is missing. To solve the mystery and save humanity, she must stop the dream terrorists from altering our minds. From Satoshi Kon, the acclaimed director of Perfect Blue and Tokyo Godfathers, comes a visionary tale that crosses the line between reality and imagination.
C'était donc la bande-annonce de Paprika de Satoshi Kon. Et alors, on a toujours une question rituelle pour commencer, c'est comment avez-vous découvert ce film? Donc Mai, comment as-tu découvert ce film et pourquoi l'avoir pourquoi, même si c'est une décision collective, qu'est-ce qui a mené à le choisir à la programmation?
Alors, comment je l'ai connu, moi? C'est un ami à moi qui est fan de Satoshi Kon, pardon, et qui m'a parlé de ce réalisateur-là et de ses films. Et donc, je suis tombée dedans grâce à lui. Et quand on a vu les thématiques de Pays Fantasmes, pour moi, c'était vraiment une évidence. Et j'étais pas la seule à l'avoir mis dans ma liste, parce qu'on était plusieurs à l'avoir mis. Donc, ça a vraiment été un consensus très rapide sur Paprika, pour le coup. Voilà.
Okay. Louis Adeline, est-ce que vous l'avez déjà vu avant de préparer cette émission?
Alors moi déjà, ce n'est pas la bande-annonce en anglais qui m'a donné envie de regarder.
Oui. Alors je n'ai pas trouvé de bande-annonce en japonais, ce qui m'a beaucoup étonné. Donc,
Moi c'est assez étrange, je travaille pour un média qui a créé une plateforme de streaming récemment. Et il se trouve que c'était sur cette plateforme de streaming, donc en début d'année, j'avais déjà entendu parler de ce film. Et j'étais assez curieuse, sans pour autant n'en avoir rien entendu. En fait, c'est-à-dire que je savais que c'était un film important, mais je ne connaissais pas l'histoire, je ne connaissais pas les influences qu'il avait eues sur le cinéma américain, ou le cinéma en général, et en fait, je connaissais rien à part le titre, l'image, du coup, la couverture, et puis le fait que c'était un film qui avait marqué un peu une histoire du cinéma d'animation, mais je ne savais plus.
Et pour ma part, je connaissais pas du tout Paprika avant de préparer cette émission. Et bah, je suis très très content de le connaître maintenant. On va avoir le temps d'en discuter. Moi, j'ai beaucoup beaucoup aimé, même toute la filmographie, enfin la courte, mais toute filmographie de Satoshi Kon. Et donc, je ne connaissais pas, mais je suis très très content de connaître maintenant.
Est-ce qu'on peut commencer peut-être par pitcher le film? Est-ce que quelqu'un veut se lancer pour expliquer de quoi ça parle? C'est compliqué, tout le monde dit non, ça sera donc Louis.
Allez. Paprika, le pitch. Déjà, il faut dire que c'est très difficile
Ouais.
Il y a toujours un point de départ quand même, et c'est ensuite que la trame devient assez difficile.
Tu veux qu'on fasse le devoir ?
Comme tu veux, mais je peux m'y essayer. Donc, je crois que c'est grâce à une machine qui s'appelle le DC Mini qu'il est possible, donc dans le monde dans lequel évoluent les personnages de Paprika, de rentrer dans les rêves des gens qui sont des patients qui viennent parce qu'ils ont certains troubles psychologiques ou et de pouvoir enregistrer ces rêves et du coup de sonder un peu leurs pensées, leur inconscient et de pouvoir leur proposer finalement un traitement. Sauf que le processus, il est en phase de test et il y a un prototype donc du DC Mini qui est volé. Et je pense qu'on peut s'arrêter là pour ne pas gâcher le reste.
Bien joué.
Bravo.
Voilà.
C'est,
il a besoin de personne, Louis.
Non, il a vraiment besoin de personne. J'en profite pour rebondir, parce que c'est peut-être un pitch qui vous fait penser à un autre film
évidemment.
Qui est sorti quelques années plus tard.
Évidemment.
Et si vous avez écouté l'émission précédente, vous savez que Inception est un film qui est très cher à mon cœur, qui m'a un peu lancé dans la cinéphilie. Et donc moi, c'est grâce à Inception que j'ai connu Paprika. Car j'avais vu pas mal de vidéos qui faisaient des parallèles, et c'est vrai que c'est impressionnant car au-delà simplement du synopsis, qui est donc en gros un thriller qui se passe dans le monde des rêves, à peu près, plus ou moins si j'ai bien compris, il y a beaucoup d'images qui ont carrément été reprises de Paprika pour Inception. Il y a un miroir qui se brise et à travers lequel on passe.
Les couloirs.
Il y a le couloir, surtout le couloir, c'est impressionnant, c'est exact. Enfin, ça ressemble beaucoup, beaucoup.
Moi, je pense que c'est un clin d'œil tout à fait assumé.
Je pense aussi, car après tout, les films au final ont un même postulat de départ, mais sont très éloignés sur la forme.
Je pense que le couloir, c'est un peu un lieu ou une figure par lequel t'es obligé de passer dans un film un peu labyrinthique comme ça, où tu passes entre les rêves, entre les réalités.
Après, il est vrai que sur ce coup-là, je suis un peu la némésis de Nicolas, puisque je déteste Inception et le réalisateur en général. En tout cas, je n'aime pas beaucoup. Et en fait, en regardant ce film, en regardant certaines scènes, je me suis dit, waouh, genre Inception, c'est peut-être celui que je tolère à peu près le plus. Et en fait, je me dis, ah merde, en fait, il a même rien inventé, quoi. Genre, vraiment, c'était nul. Et en fait, en regardant du coup le documentaire dont tu as parlé tout à l'heure, Satoshi Kon, l'illusionnisme, je suis un peu retournée, descendue de mes grands chevaux qui étaient Nolan n'a rien inventé, de toute façon, c'est un nul, puisque Satoshi Kon lui-même n'a rien inventé, puisqu'en fait, c'est une adaptation du coup de Yasuka Tsutsui. J'espère que je me trompe.
On sera indulgent sur les noms japonais.
Qui du coup a écrit un roman à ce sujet, et du coup Paprika est lui-même une adaptation, et donc du coup ça m'a permis d'être un peu moins énervée contre Nolan et Inception, même si en fait en soi, dans tous les cas, c'est une bonne idée en fait. Le monde des rêves, et pour revenir aussi aux effets spéciaux, en fait le fait que ce soit un film d'animation, on se permet beaucoup plus de choses qu'on peut se permettre dans le Inception de Nolan, tout simplement aussi, parce qu'il y a quelque chose. Et pour quelqu'un qui n'y connaissait rien au film, j'étais vraiment très mal à l'aise dès le début, parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de jeux en fait avec la réalité, avec la fiction, avec le monde des rêves, qui était extrêmement flippant. Donc on reviendra sur l'aspect...
C'est très perturbant.
L'aspect effrayant de cette officielle, mais il se trouve que oui, sur le moment, je me suis dit mince, je vais pas du tout continuer ce film parce que en fait, il fait un peu peur, et notamment la poupée et beaucoup d'images en fait, je trouve dans ce film qui en différencie avec Inception où finalement c'est plus le monde du rêve en termes métaphysiques, enfin en termes de réflexion de qu'est-ce que c'est le rêve.
C'est plus un James Bond qu'un film d'horreur, quoi.
Mais en effet, il y a des figures qui sont très terrifiantes. Moi, c'est pas ça qui a un peu éprouvé mon visionnage. C'est surtout le rythme, déjà. C'est très très rythmé.
C'est freiné, ouais.
C'est vraiment. Et après, en une heure et demie, il arrive quand même à mettre en place vraiment tout un univers très très riche, un univers vraiment démentiel. Mais du coup, ça se fait avec un rythme forcément qui est très éprouvant. Moi, je suis sorti de mon visionnage en étant fatigué. Et en plus, bon, déjà, c'est un film du coup qui est complètement fou. Il y a plein de couleurs, plein de sens, ça va vraiment dans tous les sens. Et puis surtout, au début, je trouve que on essaye de faire ce travail, du coup, encore une fois éprouvant, de discerner la réalité, les rêves, les illusions, et finalement je pense qu'il ne faut pas.
Non.
Je pense qu'à un moment il faut se laisser aller et se dire ok, je sais pas où est-ce qu'il va nous emmener, je sais même plus à quelle strate de rêve dans le rêve on est, mais c'est pas grave, parce que sinon, je pense que ton cerveau, il explose.
C'est ça qui est désastreusement pour... Donc, c'est ça qui est aussi très très loin d'Inception, parce qu'Inception, c'est un film que j'adore, je le dis encore, mais qui perd son temps à nous expliquer ce qui se passe, qui vraiment nous dit, alors là, tu comprends, c'est la première strate de rêve, la seconde strate de rêve, la troisième strate, etc. Tandis que, oui, Paprika, c'est un film qui assume dès le début de mêler les deux, on comprend pas forcément de quoi ça parle, et c'est vraiment très peu bavard. Là, pour le coup, ils expliquent en deux phrases pour vraiment te dire...
Trouve.
Ah oui, je trouve que c'est vraiment assez peu bavard, parce que... Ça te dit le truc, ça a droit au but, c'était pas de te l'expliquer en surcouche, etc., en dialogue. Et je trouve que c'est plus un film sensitif où vraiment tu comprends en te plongeant dans le truc et en te laissant porter par le film, comme dit Louis, qu'un film cérébral, j'ai envie de dire, c'est l'onirisme en gros du sujet te parle à ton subconscient plus qu'à ton conscient.
Je suis assez d'accord avec toi, mais je suis aussi d'accord avec Maï sur le fait que quand même c'est un film qui est assez bavard,
ouais,
notamment dans, enfin moi la scène où vraiment je me suis rendu compte, comme tu disais Louis, que finalement il fallait que j'arrête d'essayer de comprendre parce que je suis quelqu'un de très premier degré
et
j'avais vraiment du mal. Et en fait c'est une des scènes au tout début, en fait la scène du cirque qui se répète plusieurs fois et où en fait on au tout début, alors dans mes souvenirs, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on se place, qu'est-ce qui se passe. En fait, on est vraiment plongé dans la scène. Et ce que tu disais, Nicolas, c'est que c'est quand même une scène très bavarde. En fait, elle blablate avec le policier pendant tout le long. Paprika, en fait, parle beaucoup. Mais en fait, il y a quelque chose de... c'est presque de l'hypnose. C'est-à-dire qu'en fait, elle parle. Et du coup, tu oublies complètement que tu es censé comprendre...
Oui.
Si on est dans la réalité ou si on est dans la fiction, et qu'en fait, peu importe, parce qu'elle, elle est là pour t'aider et à te faire, du coup, juste ton trajet. Et au fur et à mesure, tu comprends, en fait, que, notamment, en fait, Paprika, c'est pas un personnage principal en termes de protagoniste, ce qu'on pourrait trouver dans Inception, par exemple. Mmh. En fait, c'est pas du tout un protagoniste, elle a pas un point A, elle a pas un point B.
Y a même pas d'histoire à ce personnage, en fait, parce que je pense pas qu'il y ait une nécessité de le construire. Elle vient plutôt en aide au personnage du commissaire, j'ai oublié son nom, je vais le retrouver.
Qui lui-même est un personnage secondaire à l'histoire.
Oui. Ouais, Kunokawa, c'est ça. Et en fait, je pense que c'est plutôt en effet un genre d'adjuvant sorti un peu de nulle part, parce qu'elle n'a pas d'histoire, son personnage n'est pas tant construit que ça.
Mais en soi, on comprend à la fin que c'est juste un double,
oui.
Et que du coup, le personnage principal...
Je pense qu'elle fait partie vraiment, même son incarnation dans la réalité où on ne sait pas, c'est elle-même un personnage un peu fantastique ou fantasmagorique. En tout cas, c'est pas comme le commissaire, un personnage dont il y a un passé qu'on va pouvoir retracer, construire, etc. Je pense qu'elle aussi, il ne faut pas se poser de questions, elle fait partie
des illusions. Qu'il n'y ait pas de fil rouge sur des protagonistes, c'est vachement intéressant parce que aussi,
y en a un quand même. Avec le commissaire là, Kunokawa, un petit peu.
Oui, mais en soi, comme disait Nicolas, c'est un personnage qui est très secondaire en soi, à l'intrigue, parce que l'intrigue principale, c'est une enquête. Qui a volé les Décimini, qui tue des gens. Enfin, c'est surtout ça, c'est qu'en fait, finalement, après, il va y avoir quelque chose de très violent sur cette personne qui a volé le Décimini, intercepte les rêves, qui, en fait, du coup, font devenir les gens complètement somnambules, etc. Et les amène à faire des crimes ou...
En fait, il arrive même à prendre possession de leur subconscient. Il y a un truc comme ça.
Et les scènes d'accumulation, notamment le médecin, c'est un... Le
papy, là.
Le papy. Oui. Ces scènes-là sont affreuses. Quand il est avec tout ce char de...
J'adore.
Et vraiment, je trouve que du coup, il y a des images qui sont très troublantes. Parce que dans cette image-là, en fait, du coup, du char, comment on appelle ça, un carnaval.
Une parade.
Une parade, oui. Il ouais. Y a un jeu de un peu où est Charlie, où à la fin, on se rend compte que la poupée est au milieu, et d'un seul coup, ça te glace complètement le sang. Et après, on pourra parler aussi de l'esthétique, mais elle est assez différente, je trouve, d'une esthétique des mangas à cette époque-là. Mais après, on pourra en parler aussi pour un autre film où j'ai trouvé...
On pourra peut-être parler de Satoshi Kon... et ta filmographie un peu plus tard. Est-ce que j'aimerais savoir tout simplement, est-ce que vous avez aimé ce film?
Moi, énormément. Et j'adore le revoir, en fait. Parce qu'à chaque fois, c'est un film qui est très éprouvant et met à l'épreuve le spectateur autant que ses personnages. Et ça, je trouve ça assez génial. Et il teste notre rapport à la réalité, au réel. Parce que quand il parle de la fiction, ça peut être les rêves, ça peut être les fantasmes. Enfin, il y a tout ce pan-là. Et même nous, en quotidien de notre vie, on cherche le fantasme aussi, et les rêves aussi. Mais on, quand il éclate toutes les limites possibles, c'est perturbant aussi pour nous. Même si c'est de l'animation, ça éclate aussi notre rapport au réel. Et ça, je trouve qu'il le fait brillamment dans Paprika, mais dans ses films aussi précédents. Et voilà, je trouve qu'il est merveilleux à voir, il met tout en perspective. Et ouais.
Mais à revoir aussi, il est... parce que du coup je l'ai revu hier.
Je pense que typiquement c'est un film quand même qui se revoit. On a déjà eu ce débat de est-ce qu'il faut revoir un film et ça. Là pour le coup je pense que oui, il faudrait le revoir.
À revoir, il est super.
Bah, je l'avais découvert.
T'es moins surprise en fait par toutes ces... le film en général.
Bah, la seconde fois je pense que ça permet de mieux l'apprécier car on est moins dans l'intellectualisation du truc. La première fois, donc je l'avais découvert vers Noël 2020. Et j'essayais de comprendre ce que ça me racontait. Et c'est un piège parce que oui, si on essaie de comprendre tous les dialogues, etc., on ne sait pas prendre dans le film. Et hier, je l'ai revu vraiment l'esprit libre, l'esprit tranquille. Et vraiment, tu te fais embarquer dans ce mélange d'images, de couleurs, de cette parade qui est magnifique, que j'adore. Cette parade qui est un peu le fil rouge en fait, du film, en soi, visuellement. Et on se laisse vraiment emporter partout. Et on finit par comprendre le film et se dire qu'au final, ce n'est pas le plus important de tout comprendre.
Parce que du coup, la parade, juste pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je crois que c'est une imbrication de tous les rêves, je crois, qui se rejoignent un peu dans la parade. Non, c'est pour ça que ça devient le fil rouge.
Il y a beaucoup de choses qui sont de l'univers du Japon aussi. C'est une parade où il y a énormément de matière et de matières qui sont clivantes. C'est-à-dire qu'il y a des clowns qui sont aussi quelque chose de très clivant dans les rêves. Il y a des jouets, des choses qui sont très enfantines et qui sont très clivantes. Et en fait, c'est assez ça qui est intéressant dans les films de Satoshi Kitakon et aussi ce film-là en particulier, parce que d'autres ne rentrent pas dans cette sphère-là. Mais c'est... Je me suis posé la question, est-ce que je l'aurais vu en tant qu'enfant et du coup, je me dis, non, pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui sont très gênantes. Mais en même temps, il y a quelque chose qui rentre un peu dans ton inconscient et qui ne fait pas forcément peur. Parce que, du coup, pour raconter mon expérience personnelle, au début, j'étais extrêmement gênée du film et je me suis dit, peut-être que je ne vais pas forcément aimer. Et en fait, à la fin, j'ai adoré parce que genre, je suis vraiment rentrée dedans. Et je trouve que ça fonctionne sur plusieurs... couche intellectuelle, et en fait ça fait pas forcément peur, je pense, quand on ne sait pas ce qu'est le danger des rêves. En fait, je trouve que du coup, les rêves, ça a quelque chose de tellement effrayant quand on est adulte, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus conscientisé, alors que quand on est enfant, il y a le cauchemar et le rêve. Et je trouve que du coup, c'est assez intéressant parce que c'est un film qui pourrait, alors je le conseille pas des enfants, mais qui a une conception enfantine en tout cas.
Un peu comme le personnage d'ailleurs, je sais plus du tout son nom, celui qui mange beaucoup.
Oui, oui.
Où tout le monde dit que c'est un enfant dans un corps d'adulte.
Il veut vraiment casser son rapport au réel et ce qu'il aime à l'imaginaire vraiment. Et ouais, c'est très triste. Et
Mais du coup, ce qui est super rigolo, c'est que dans le documentaire, du coup, Satoshi Kon l'illusionniste, il y a une animatrice qui travaille pour Satoshi Kon. Et qui lui dit qu'elle a trouvé le film génial, mais très perturbant. Et il lui répond, mais comment ça perturbant pour moi, Paprika, c'est mon Sailor Moon. Et je trouve que c'est super intéressant de se dire que même lui, en le faisant, il se disait que c'était un film très familial. Et d'ailleurs, dans le film...
La perception.
Oui. Et en fait, c'est ça, c'est que... Et je trouve ça très rigolo de dire c'est mon Sailor Moon en se disant que ça va être quelque chose de très popularisé dans la culture pop, alors qu'en fait, ça l'est. Mais dans un truc beaucoup plus niche, de l'ordre de...
Et adulte.
Oui, et très adulte.
Et ce qui permet aussi, ce que j'avais noté, et ce qui m'a fait apprécier le film surtout, c'est qu'on parle beaucoup du fait qu'il soit éprouvant, mais il y a déjà un véritable art de la mise en scène, de ce joyeux bordel, qui permet finalement de, malgré le fait qu'il soit éprouvant, de pouvoir très bien le suivre, très bien le regarder. Et un autre art, et ça on en reparlera pour les autres films de sa filmographie, c'est un art de la transition. Pour passer de la réalité au rêve, ou d'un rêve à un autre, il manie très très bien cet art, donc à la fois de la mise en scène et de la transition, et ça permet du coup au final de faire de ce film un bonheur visuel, et malgré son caractère éprouvant, de ne pas rebuter les gens, et finalement une fois que tu te laisses aller, c'est ce qu'on vous conseille du coup de faire, bah, tu prends un tel plaisir. Et depuis le début, du coup, on parle beaucoup donc, de l'ode un peu à la complexité des rêves qu'il y a dans ce film. Alors, capacité à nous émerveiller comme à nous effrayer, c'est ce que, du coup, Adeline soulignait. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a une autre ode, une autre éloge dans ce film. C'est une éloge du cinéma. Déjà à travers le personnage, du coup, de Kunokawa.
Et en fait, bah, s'il y a bien un art parmi les arts qu'on connaît qui est basé sur l'illusion et la manipulation, c'est bien le cinéma. Et je trouve qu'il y a plein de mises en abîme dans ce film et dans les films de Satoshi Kon. Mais là, la mise en abîme principale, pour moi, c'est une mise en abîme bah, du cinéma, en fait.
Bah, Paprika le dit directement au policier dans une salle de cinéma, oui. En plus, évidemment. Elle lui dit, tu sais, en fait, les rêves qui sont en train de se passer là, c'est comme un long métrage. Mmh. Et le policier dit qu'il n'aime pas le cinéma. Et toute l'intrigue du policier, c'est une psychanalyse pour savoir pourquoi il n'aime plus le cinéma.
Voilà.
Et donc, ce qui est très fort, et je pense que cette ode au cinéma marche autant, c'est parce que Satoshi Kon, en fait, parle de lui-même à travers le personnage du policier, à un point tel qu'on ne va peut-être pas révéler la dernière image du film, mais c'est très, très explicite de quoi, à quel point il parle de lui-même. Et c'est encore plus touchant le fait que ce soit son tout dernier film à Satoshi Kon, car le film sorti en 2006, et lui, il est mort en 2010,
ouais.
Alors qu'il préparait un film, et ça, on l'apprend dans le documentaire, du coup, Satoshi Kon, l'illusionniste. Mais tout le long de Paprika, il y a des visuels du film qu'il était en train de préparer. Tout le parc d'attractions qui s'appelle Dreamland, où l'infirmière y va dans le premier temps et elle a failli tomber à chaque fois d'un immeuble. Tout ce visuel-là, ce parc d'attractions, est déjà en fait les héros du film qui est en train de préparer Satoshi Kon. Et je trouve que c'est merveilleux, car on se dit que, au final, Paprika est le dernier film de Satoshi Kon, mais il a quand même laissé une trace de son projet, de ce qu'aurait dû être son prochain film, même au-delà de la mort, à travers quelque chose qui est de très subconscient et qui est à travers des rêves. Et Louis, tu parlais évidemment de l'ode au cinéma. Donc je pense qu'on pourra reparler des autres films de Satoshi Kon, à moins que vous ayez encore des petits détails à ajouter sur Paprika. Mais on pourra parler des trois autres films de Satoshi Kon après un petit jeu. Et vu que Victor n'est pas là, c'est toi, je crois, qui nous a préparé ce petit jeu.
Eh oui.
Eh bien écoute, j'ai envie de lancer un magnifique générique.
Nous allons jouer à un jeu.
Not a chance.
Faut arrêter avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre.
Oh putain, c'est un Trivial Pursuit.
1, 2, 3.
Je vous propose un autre jeu plutôt. Connais un jeu auquel je gagne toujours.
Si vous ne pouvez pas perdre, ce n'est pas un jeu.
Je peux perdre, mais je gagne toujours. But don't play
with me. Et donc Louis, est-ce que tu peux nous rappeler les règles de ce jeu?
Et oui, parce que du coup, comme tu l'as dit, en l'absence de Victor, notre réalisateur, mais aussi notre game master, hein, c'est un peu le Thierry Beccaro de la séance du dimanche. Je sais pas ce que je raconte. Il me fallait un jeu facile à préparer, mais pas moins amusant, donc ce sera le jeu des listes. Alors le concept est très simple, bien plus simple que la trame d'un film de Satoshi Kon. Je vais vous donner un thème, quelque chose que je voudrais retrouver dans le titre d'un film. Et vous allez devoir, du coup, chacun votre tour, me donner le titre d'un film correspondant. C'est très facile, Maï. Et on va commencer par toi, comme ça, t'auras tout. Et peut-être que je peux vous laisser quelques secondes pour réfléchir déjà à des titres de films. Je voudrais que chacun votre tour, vous me citiez un film contenant un nom de ville ou de pays dans le titre.
Chinatown.
Très bien pour Maï. Et on va peut-être continuer avec Nicolas.
Oslo, 31 août.
Ouais. Adeline. Une ville, un pays, comme tu veux.
Today's in Paris.
Belfast.
Hiroshima, mon amour.
Tokyo Godfather.
Oui, un film de Satoshi Kon.
Non, merde.
Maimuna.
La panique, non.
Il y en a.
Mais je sais qu'il y en a.
Même des récents.
Wow, un petit... C'est gentil. Petite aide. C'est vrai que c'est un jeu quand même compliqué.
En fait, on en a plein.
On se dit, mais oui.
Mais sous la pression. Et une fois que c'est fini, on en a.
Sous la pression, c'est effrayant. J'en avais un.
Vas-y.
Non, perdu. Non, je sais pas.
Non. Un film de Wim Wenders.
Ouais.
J'ai envie d'aider Maya, c'est notre invité.
Il a le droit.
Le mieux, c'est de se focaliser sur une ville, par exemple celle où on habite.
Oui.
Ah non, truc de Woody Allen. Désolé pour le réalisateur, mais Midnight
in Paris.
C'est ça.
Très bien, Maï.
C'est compté.
C'est trop.
Bon, j'avais envie de dire celui de Wim Wenders, mais je ne le dirai
pas. Allez, vas-y.
Vas-y, si, vas-y.
Paris, Texas.
Voilà.
Superbe.
Je l'adore ce film, ouais. Quelle honte.
OSS 117, Rio ne répond plus.
Oui.
Allez, on dit que ça compte pour les...
Pour tous les OSS, ouais.
Oui.
Ah, c'est à moi encore là?
Oui, oui.
Le film là, qui se passe en Bretagne, soit la cure là. Ah,
quoi que je pourrais jouer en fait.
Ouais, tu peux pas jouer comme ça après pour gagner 25 secondes.
Allez, un petit bonus.
J'en ai préparé un petit peu déjà.
Quiberon.
Ouais, ah, moi je vais dire Ouistreham pour rester dans la région.
Je pensais à celui-là.
Dunkirk.
Oui.
Ah oui.
Est-ce que tu veux rester dans le nord de la France, Maïmouna?
Roubaix Lumière.
Oui. Oh. Bon, je vais m'éloigner de la France et dire New York, New York. Pour oui, citer Scorsese, vraiment. Évidemment.
Et ça compte pour 2 points, du coup.
Et j'ai envie de rajouter Gangs of New York.
Putain, j'allais le dire.
C'est beau.
voilà.
Maïmouna, oui. J'ai envie de t'aider encore une fois. Jacques Demy.
Ah, oh, Mlle de Rochefort. Wow. Oh, oui.
Les parapluies de Cherbourg.
Ben oui.
Ah, oui.
Désolée, je ne continuerai pas sur cette.
C'est pas dommage.
The King of Staten Island.
Ah, bien joué. Ça va trop vite, il y a pas assez de temps.
Oui.
En fait, on tient bien.
Ouais,
étonnamment.
Mais là, je commence à.
Ouais, pareil, j'en ai un.
Maintenant, on va commencer à faire un décompte pour pas que ça prenne nos 1h30 d'émission.
Ça pourrait, je pense.
Maïmouna, je vais. Après 2 indices.
Un troisième indice.
Non, je vais commencer à faire un décompte.
Ok, bah écoute, je t'en prie, vas-y.
3, 2, 1. Bon, on enchaîne avec Nicolas.
Désolé.
Voyage à Tokyo de Yasujiro Ozu.
Ah oui, Vicky, Christina Barcelona.
Oh.
On continue le match entre Nicolas et Adeline.
Ouais, ça va.
Austin Powers.
Que...
La ville d'Austin.
Ah, dans d'accord.
Ah oui, mais là, c'est un nom propre si on part de là.
c'est un nom de ville.
Je suis pas du tout d'accord.
Ok, bah, Que Viva Mexico de Eisenstein.
Tu l'auras pas.
Alors.
Ligne des comptes.
Fukushima. Non, merde. Tchernobyl. Désolé, j'ai abandonné.
C'est une série, je pense qu'on en a un niveau du jeu. Ah, il y a un film.
Il y a un film, oui. On était à Tchernobyl ou quelque chose comme ça. Mais sinon.
Vas-y.
Et pas du tout. Je suis trompée.
Je pense que ce sera une victoire de Nicolas.
Allez, je finis avec Santiago Chile de Danny Moretti.
Il est bon.
Rome d'île ouverte. Voyage à Venise, d'ailleurs.
Vacances en Italie.
Bon, je vous propose une deuxième liste. Peut-être qu'elle ira un peu plus vite.
Ah, tu crois?
Oui. J'aimerais des films dont le titre comprend un animal. Est-ce que Maï, tu veux commencer?
Le Roi Lion.
Oui, très bon.
Le Caïman.
C'est quoi ça?
C'est un film sur Berlusconi par Nanni Moretti.
Ah oui.
Si je ne m'abuse.
Ok.
Le Jaguar.
C'est pas le Guépard?
Ah oui,
c'est
le Guépard. Putain, je suis nul. Bah voilà.
Ça bat mon point du coup.
Non, et du coup, on va faire un petit ping-pong entre Nicolas et.
J'en ai plus.
Non, c'est vrai?
Ah vas-y, Maï, c'est à toi.
J'avais 3 petits cochons, mais pas du tout. Chicken Run, c'est vraiment que les films Disney.
Ouais,
Le Roi et l'Oiseau.
Ah oh,
oui, très bon.
Ouais.
Merci,
très bon. C'est le plus beau film du monde. Le Peuple Loup.
Les Enfants Loups.
Les Enfants de la Mer. Non, c'est pas du tout un animal.
Les enfants ne sont pas des animaux, Maïmouna.
Oh, presque. Un peu. Non, même pas. Ça passe pas. Du coup, ça veut dire que j'ai perdu.
Sauf si tu as une idée.
Je pense que. En ce moment, Lucas est en train de serrer les dents en pensant très fort à un documentaire dont il affectionne particulièrement.
Mais ne donne pas trop d'avantages à Nicolas qui en a déjà beaucoup.
Oui, c'est vrai, j'ai même pas pensé en plus.
Du coup, je me sens un peu obligé de donner un indice à Maïmouna pour équilibrer.
Mais t'es sûr? Est-ce que je vais le trouver? Vas-y.
Un film avec Jean Gabin, Simone Signoret.
Oh,
oh putain.
Dédicace à Sébastien Pajolek.
Et à Thibaut Fajal aussi.
Un vieux couple dans un huis clos, leur maison, et il y a un petit animal avec eux qui donne son nom au film.
Bah, je pense que
Nicolas est beau. Allez.
C'était le chat.
Le chat. On peut aussi citer un poisson nommé Vanda.
Bien sûr.
Ah, oui.
La marche de l'empereur, je ne sais pas si
bien
ça
sûr.
Compte. Grizzly Man.
Oui, bah, du coup, Grizzly Man.
La mouette et le chat.
Ouais.
Lamb, qui est sorti avant.
Oui.
First Go, également.
First Go, sorti.
Ouais.
Ah ouais,
on est sorties récentes, et sinon on est sorties beaucoup moins récentes qu'En passent les cigognes.
Ah oui.
Et on parlait du chat, mais il y a aussi la mouche, la chèvre, et beaucoup d'autres. Mais forcément on n'y pense qu'après.
Et chat noir, chat blanc.
Oui, aussi. Est-ce qu'on fait une troisième liste?
On a le temps de faire une troisième liste.
On a le temps de faire une troisième liste. Eh bien, je veux que vous me citiez des films contenant un prénom dans le titre. Et cette fois, on peut peut-être commencer par Aline, pour changer un peu l'ordre des choses.
Pitié de moi.
Annette.
Annette, oh, très bon.
C'est à moi.
Oui, Nico. Okay.
J'allais dire petit quinquin, non, c'est une série, ça ne compte pas. Un prénom... La vie d'Adèle.
Ça peut être des séries aussi
Plutôt des films, quand même.
Chiotte.
Mais dans les sorties récentes, il y en a beaucoup.
Avec des prénoms?
Oui.
Je peux reprendre le Woody Allen, la vie de Christina Barcelona.
Allez, allez. Oui.
Anna Karenine.
Après, on peut prendre tous les biopics qui existent. Et...
Ouais.
Ah, mais oui. Attends, merci.
Peut-être que, bon, on le fait pour un tour et après...
Rasputin avec Gérard Depardieu.
Oh.
Le prochain Elvis qui va sortir.
Allez, on accorde.
Non, bah, c'était trop facile, j'aurais pu faire mieux.
Mais bah, ouais, peut-être que les biopics, c'est un filon un peu trop facile.
Donc j'abandonne le jeune Karl Marx pour le jeune Ahmed.
Très. Harry, un ami qui vous veut du bien.
Lola, de demi.
Quand Harry rencontre Sally.
Cours Lola, cours. Le Tom Waker.
Ça va être vite pour moi là.
N'hésitez pas à jouer chez vous, derrière votre transistor.
Maï, dans les sorties récentes.
Là, mon cerveau,
un film en 12 chapitres,
je
t'aide beaucoup.
Julie en 12 chapitres, non mais vraiment, tu veux pas lui prendre ma place.
Non.
Et du coup, j'en avais un. Oui, alors je sais pas si ça marche parce que c'est un nom de famille, mais Starchy et Hutch.
Starchy et Hutch.
J'arrive pas à le dire.
C'est pas vraiment. Non. Je ne pourrais pas le compter, je pense.
Ce n'est pas un duo. Alors que Austin Power.
Ça n'a pas compté.
Non, mais il en avait tellement en rab que bon.
Non, mais Austin Power, du coup.
Ah oui.
Un poisson nommé Wanda.
Dory. Le monde de Nemo et de Rick, j'en fais deux d'un coup comme ça après.
Oui. Non, bah, c'est des noms un peu fictifs.
Ah, okay,
je m'attendais plus à des prénoms.
Ah ouais, t'as beaucoup d'attentes. Non, mais on te dit.
Mais parce qu'il faut resserrer à un moment donné.
Ah ouais. D'accord. Bah, du coup. Peppa Pig.
Non, mais il y en a.
Ouais, je suis pas sérieuse, excusez-moi, désolé, je panique. Désolé.
Bon,
je vous laisse finir.
Mais c'est épuisant comme.
C'est épuisant comme jeu, en effet.
Comme jeu. Et. En plus, moi, maintenant, je n'ai que des noms de famille, donc...
un jeu qui se corse. Hein.
Ouais. Tu vois, par exemple, j'ai Kramer contre Kramer, mais j'ai pas le nom des... tant pis, je relance...
Et Nico, est-ce que t'en as un pour
Cyprien, le meilleur
Ah bah oui.
Avec Elise et Moon. Ouais.
Et du coup, Didier.
Oui.
Oh.
Le match est relancé, mais non, c'est quand même une victoire de Nicolas. Sinon, il y avait aussi le filon des films d'horreur, avec Annabelle, Esther, Chucky.
Moi, je t'avoue que le nom de Didier m'a ouvert sur un autre filon de film avec Johnny Hallyday qui s'appelle...
Jean-Philippe.
Ouais,
tout simplement.
Eh bien, voilà.
Eh bien, merci, Louis, d'avoir été le maître du jeu.
Merci beaucoup, tout ça, pour ne
d'avoir
pas
assuré,
perdre. Bravo. Je tiens à me dire que...
Non, pas du tout.
Ça me vexe.
On espère que vous avez apprécié ce moment chez vous aussi, que vous avez joué. Envoyez-nous vos noms de films. Comme sous les vidéos de Blow Up où les gens disent toujours « Vous avez oublié tel film, vous avez oublié tel film ». N'hésitez pas à vous abonner à notre page Instagram.
J'ai fait embrouiller par tout le monde, c'est sûr.
Voilà, et à nous envoyer vos noms.
J'ai dit Titanic... Non, Cameron.
Oui.
Titanic,
Steven Spielberg pour Titanic.
Sous la pression, on peut s'embrouiller. On peut... Pas de problème.
Eh bien, pas d'embrouille, car tout de suite, on va passer... au reste de la filmographie de Satoshi Kon. Et auparavant, je vous conseille un petit morceau. On parlait d'une scène tout à l'heure qui est marquante, qui est celle de la parade. On va s'écouter tout simplement le morceau Parade de Suzumu Hirasawa.
Shut up.
et vous écoutez toujours la séance du dimanche sur Radio Campus Paris ou en podcast. On parle aujourd'hui du film Paprika de Satoshi Kon en compagnie de Maï du Breakfast Club Cinéma Club. Et on a parlé déjà dans la première partie de Paprika, et maintenant on a envie de parler du reste de la filmographie de Satoshi Kon, ce qui va être assez rapide car au final il n'a fait que 4 films et une série. Donc je commence avec toi Maï, est-ce que tu as envie de nous parler d'un autre film du réalisateur?
Alors moi je n'ai vu que Perfect Blue hormis Paprika, que j'ai rattrapé pour l'émission du coup, que je n'avais pas vu, et ça a beaucoup plus sombre, il m'a beaucoup plus impacté que Paprika, il est beaucoup plus ancré dans un réel terrifiant, très maladie mentale aussi. Enfin, c'est plus terrifiant que Paprika pour le coup, parce que c'est, il nous perd beaucoup plus. On n'a pas les clés de la compréhension et à la fin, c'est toujours pas. En fait,
je crois que là aussi, il faut renoncer.
Ouais, mais moi, ça m'a vraiment trigger et ça m'a vraiment. Ouais. Enfin, il est très sombre,
très
mais bouleversant aussi, parce que ce qu'elle vit, c'est absolument tragique et pour le... mais c'est très bien réalisé pour le coup, c'est très bien fait parce que ça touche vraiment quelque chose de très intime et il va très loin. Et donc pour voilà.
Et surtout, c'est son tout premier film, donc oui. Il a de 1997.
C'est ça.
On voit que le dessin est très différent, qu'il y a vraiment...
L'animation est différente.
Ouais, l'animation aussi, entre Paprika, qui est son dernier, sorti en 2006, et Perfect Blue en 99, on voit une vraie différence à ce niveau-là.
Est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle, peut-être, Louis?
Oui.
Je crois que tu l'as vu il y a 2 jours, je crois.
Oui, oui, oui. du coup, c'est une pop star... japonaise, voilà, dans tous les clichés un petit peu que ça peut avoir.
Une idole.
Ouais, une idole, c'est ce qu'ils disent. Ouais, ce qu'ils disent. Avec forcément des fans parfois très... comment est-ce qu'on pourrait dire ça ?
Présents.
Ouais. Et elle décide du coup d'arrêter sa carrière de popstar pour se mettre... dans le cinéma, les séries, enfin, en tout cas, elle veut devenir actrice. Et ça ne plaît pas à certains de ses fans, et surtout à un de ses fans, et je n'en dirai pas plus. Mais c'est un thriller glaçant, Maï l'a dit. C'est. En fait, moi aussi, il m'a mis très mal à l'aise. En fait, certaines séquences sont un peu sordides, un peu. Ouais. Même pas qu'un peu, sordides, perturbantes. Et j'avoue, à certains moments, avoir un peu détourné le regard ou avoir eu vraiment des réactions corporelles ou même orales devant le film, alors que j'étais tout seul chez moi pour le regarder. Mais d'un autre côté, ça me fait du bien que certains films comme ça me bousculent un peu. Je pense que c'est aussi l'essence du cinéma de nous bousculer un peu et nous faire un peu tomber de notre chaise. Et c'est pour ça que je me suis pris une vraie claque, comme ça faisait quelques mois que j'avais pas pris une claque devant un film. Donc, en plus, je trouve que je parlais du rythme tout à l'heure pour Paprika, et là aussi, il y a un rythme qui est très bien géré, mais qui est complètement différent et qui monte vraiment crescendo. Mmh. Et c'est ça que j'ai adoré aussi dans ce film. C'est vraiment son rythme.
Il est moins chaotique que Paprika,
oui.
Pour
ouais,
le coup.
Ouais.
Ouais.
Mais du coup, dans le documentaire, désolé, ça va être ma seule preuve de mon travail. C'est intéressant parce que ils interrogent la personne qui double.
Un témoignage
du coup,
très
l'idol,
fort.
Et en fait, c'est super intéressant sur le fait qu'en fait, la personne qui a doublé en fait du coup le personnage principal est également une ancienne idol, et en fait explique du coup le fait que ça l'a profondément touchée. Et c'est assez rigolo parce qu'en fait, le principe d'idol au Japon, c'est quelque chose de très strict. Et surtout à cette époque-là, en fait, où on en parle très peu.
Ouais, il y a des codes, il y a des...
Et où surtout, en fait, les idols, elles ont explosé dans les années 80. Et maintenant, c'est beaucoup plus présent en Corée. Mais en fait, les idols japonaises, à cette époque-là, elles ont peu de place et peu de place médiatique après leur travail d'idol, justement. Et en fait, elle dit qu'elle-même s'est fait harceler, elle-même a vécu ça. Mmh. Et qu'en fait, c'est un scénario possible. Et c'est ça qui est encore plus effrayant. Mmh. C'est qu'il y a quelque chose de vraiment, c'est possible.
C'est ancré dans le réaliste, dans quotidiennement, une sorte de distorsion de sa réalité et de ses personnalités, de sa persona médiatique et de sa personne en tant que... Voilà, c'est complètement éclaté. Et du coup, elle se perd. Et nous aussi, on se perd là-dedans et on ne sait plus qui est qui ou qui veut quoi. Et les films vont vraiment crescendo avec cette thématique-là et c'est assez brillant. Ouais.
Mais justement, quand tu dis on ne sait plus où on est, qui est qui, que ce soit, je trouve que c'est là qu'est le véritable... Enfin, ce qui en fait un véritable chef-d'œuvre, c'est d'arriver à mêler les récits vraiment avec autant de virtuosité. Et ça boit de son premier film. Je trouve qu'à ce niveau-là, il est déjà au sommet de son art.
Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, il écrit avant de faire Perfect Blue en 97. Il écrit, mais surtout, en fait, il est animateur pour des gros... des gros mangas, en fait, des gros animés qui sont assez connus maintenant, genre Jojo Bizarre Adventure. En fait, il est animateur pour certains épisodes. Il fait notamment le layout. Et en fait, c'est assez rigolo parce que c'est des mangas qui sont très éloignés de ce qu'il va faire lui. C'est rigolo parce que j'aurais pensé qu'il aurait pu travailler sur un autre manga qui s'appelle Cowboy Bebop, qui est un truc beaucoup plus réaliste, même si ça se passe dans l'espace et avec beaucoup plus de choses méta. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on le voit dans le documentaire, mais plus tard, il va travailler en collaboration avec celui qui va faire les scénarios et quelques animations de Cowboy Bebop, et ça va très mal se passer. Mais c'est assez intéressant parce que du coup, il y a un certain univers dans lequel il travaille à l'origine. Et en fait, il va rejoindre un truc qui est complètement différent et dont notamment des scénarios qui sont beaucoup plus forts et beaucoup plus durs pour l'époque, notamment dans le cinéma d'animation pour adultes, qui du coup se crée avec un studio, je pense, Madhouse, qui du coup, dans lequel il est un des principaux réalisateurs.
Oui, parce qu'au début, au départ, Satoshi Kon a écrit quelques mangas, donc souvent c'est des un ou deux tomes, d'ailleurs il y en a qui sont en train d'être réédités, je ne sais plus chez quel éditeur. Mais oui, donc tu l'as dit, il fait des mangas, il fait les layouts, les décors de certains films. Et il a commencé en tant que co-scénariste d'un grand nom du cinéma d'animation japonais, qui est Katsuhiro Otomo, qui a notamment fait Akira. Et c'est vrai qu'au final, sa carrière en tant qu'auteur, entre guillemets, dure une dizaine d'années, même pas. Et j'ai envie de parler d'un film que je crois que tu as vu, Adeline, qui est le suivant, donc après Perfect Blue, qui est Millennium Actress.
Oui. C'est un sujet qui est beaucoup plus différent et où du coup ce qui est intéressant et ce qui est vachement relevé, c'est qu'en fait il y a vraiment un travail d'animation et je pense que ça va être un sujet et notamment une animation qui va être très différente de ces autres films parce que on reprend un peu le même scénario dans Paprika ou des choses comme ça. Mais du coup, le sujet, c'est une actrice qui est déjà assez âgée.
Ouais, vers la fin de sa vie.
Qui a 70 ans. Ouais.
Et dont une équipe de journalistes vient l'interroger et lui donne une clé qu'elle a cherchée toute sa vie. Et en fait, elle commence à raconter un peu son histoire et notamment les films dans lesquels elle a joué. Et c'est intéressant parce que c'est inspiré d'une actrice japonaise. Et ça, pareil que pour Perfect Blue, ça se base sur... ce qui est intéressant, vraiment des chemins de vie, tout en mêlant quelque chose de très irréel et de très de l'ordre vraiment du rêve et de la réalité qui est un peu mêlée. Je sais pas ce que
t'en penses. Ouais, bah dans Millennium Actress, en effet, du coup, on en revient encore à la thématique. Finalement, j'ai pas vu Tokyo Godfathers, mais dans les trois films du coup sur quatre que j'ai vus, la thématique de l'imbrication entre réalité et fiction, on le retrouve à la fois donc dans Millennium Actress, où en fait quand elle fait le récit de son existence, ça se confond avec celui de sa filmographie et des rôles qu'elle a occupés, et on le retrouve dans Perfect Blue, où là encore il y a des confusions entre illusion et réalité, parce que il y a la réalité, il y a ses tournages quand elle décide finalement de devenir actrice, il y a ses rêves, il y a des hallucinations. Et juste pour revenir un tout petit peu sur Perfect Blue, à ce niveau-là, j'ai trouvé que c'est un excellent film sur la paranoïa. Je parlais dans l'émission précédente de Spencer, que j'avais adoré, qui évoque aussi ce thème-là. Mais là, dans Perfect Blue, c'est encore à un autre niveau. Et là encore, c'est grâce à des transitions vraiment très habiles, très réussies, qu'il arrive à nous faire ressentir cette paranoïa. C'est ça qui est très très fort dans Perfect Blue, et aussi dans Millennium Actress, où les transitions sont là aussi très très bien trouvées, où les temporalités, du coup, elles arrivent à... On arrive très bien... Là, pour le coup, je trouve que dans Millennium Actress, c'est là où on arrive le mieux à discerner ce qui est de la réalité, ce qui est de la fiction.
Alors que c'est ce qui est le plus... c'est les transitions le plus souples entre la réalité et la fiction. Au départ, on ne comprend pas est-ce que sa vie se mêle aussi avec sa vie d'actrice, en gros. Et au final, pareil, comme dans Paprika, on se dit pas besoin de comprendre, de vraiment... On se laisse aller par le film. Et c'est quelque chose que je crois n'avoir jamais vu, en tout cas pas à ce point, dans un film en image réelle, entre guillemets. Et c'est ça qui rend Millennium Actress passionnant, qui est là aussi, comme tous les autres films de Satoshi Kon, un film très court, qui dure 1h25, 1h30 à tout casser. Et ça n'a pas besoin de plus pour raconter ce que ça raconte. Et donc, en résulte, un rythme qui est vraiment là aussi passionnant, et on le voit pas passer Millennium Actress. Et je trouve qu'encore une fois, il y a une fin qui est magnifique.
Ouais. Mais Par contre, c'est rigolo que t'aies dit que t'aies pas vu Tokyo Godfather et que ce soit pareil sur la, que tu penses que c'est pareil sur la même lancée. Alors que...
bah, du coup, je voulais savoir si ça dénotait des trois films qu'on vient d'évoquer.
Et en fait, c'est un film très très différent. Je sais pas ce que t'en as pensé, Nicolas, parce que je pense que du coup, on est les deux seuls à l'avoir vu. Et personnellement, c'est un des films que j'ai préféré, même si il est très différent. En fait, c'est un film vraiment pour enfants, pour le coup. C'est un film qui, du coup, peut-être se rapproche plus de films qu'il voulait réaliser après Paprika, je pense. Et en même temps, c'est un film qui a plusieurs lectures, enfin, niveau de lecture, je trouve, parce que c'est un film qui, du coup, raconte l'histoire de trois sans-domestique fixe. Du coup, une travestie, un vieil homme alcoolique et une jeune adolescente qui a fui de chez ses parents, qui est fugueuse. Et en fait, ces trois personnes, le soir de Noël, trouvent un bébé. Et du coup, décident au début de le rendre, mais finalement, ils vont le garder. Ils vont essayer de retrouver la mère pour savoir pourquoi on abandonne un enfant. Trouver si elle donne une bonne justification de pourquoi elle abandonne son enfant. Donc c'est un film conte de Noël, un peu, et dont l'esthétique fait beaucoup penser... Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous l'avez vu, mais pour moi, c'est un film qui est assez ancré dans mon histoire. Mais c'est Anastasia de Don Bluth. Et en fait, c'est assez intéressant parce que c'est un peu la même esthétique. Du coup, un film qui finalement est un peu américanisé parce que les visages sont très marqués, en tout cas, de réalisme. En fait, c'est très différent d'un film de Miyazaki où finalement il y a peu de réalisme dans les visages. Là, c'est très réaliste en fait et ça ressemble beaucoup à Anastasia, du coup, qui finalement est sorti plus tôt, en 97, alors que Tokyo Godfather il sort en 2003. Et je trouve que c'est un film qui est assez intéressant. Je vous conseille de le regarder, il est sur Netflix, parce que il détonne un peu, mais en même temps, il est assez rassurant et assez doux comme film, je trouve.
C'est vrai que j'avais déjà vu du coup Perfect Blue et Paprika avant de voir Tokyo Godfathers, et c'est désarçonnant parce que c'est un conte de Noël. Alors je sais pas si c'est pour enfants vraiment. Je sais pas trop à quel public ça s'adresse. Mais dans le documentaire, ça m'a fait rire parce que c'est un documentaire sur Satoshi Kon qui cite des grands noms de l'animation japonaise et qui cite du coup aussi Trois hommes et un couffin, qui est cette comédie française qui est sortie dans les années 80-90 et qui, je pense, n'est pas de grande qualité. Je ne l'ai pas vu, mais je n'ai pas entendu de bons retours. Et là encore, ça se voit quand même que c'est un film de Satoshi Kon, car il y a quelque chose de très onirique dans les rapports entre les personnages et dans les... Il y a quelque chose de fantastique dans le film. Il n'y a pas de gros effets, il n'y a pas de gens qui volent et tout. Mais du début à la fin, il y a des sortes de miracles de Noël qui arrivent dans le film et qui permettent à toute cette histoire qui pourrait être très triste au final, car c'est trois personnes qui sont rejetées de la société japonaise et un bébé qui est abandonné, et qui permet de donner du corps à ce récit et de rendre le tout attachant et très sympa à suivre.
Et c'est très intéressant parce qu'il y a peu d'antipathie pour les personnages. Enfin, en fait, en soi, les personnages sont assez... assez étrange, et c'est pour ça que je dis que c'est pour les enfants, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas en tant qu'enfant quand tu le regardes, c'est-à-dire que notamment toute la notion du personnage qui est du coup travesti, une femme travestie, et où en fait on sait pas vraiment, il y a quelque chose de, il y a beaucoup de notions sur le rejet, le fait qu'elle a envie d'être mère, le fait de toutes ces choses là que je pense qu'avec des yeux d'enfant, j'aurais peut-être pas autant conscientisé.
Même sur l'endettement.
Sur l'endettement, sur du coup le personnage du coup du vieil homme qui est vraiment alcoolique, des scènes qui sont assez choquantes en fait, qu'il va faire, qu'il va énormément boire, des choses comme ça. Et en fait, on s'en rend pas vraiment compte parce qu'il y a quelque chose de très léger, notamment du fait du miracle. En fait, tout est connoté sur le miracle. Il y a une scène affreuse où un des personnages se fait littéralement tabassé par des gens et il vient juste de veiller quelqu'un qui est mort, un autre SDF, et du coup c'est une scène assez triste en soi, mais qui a quelque chose de, comme tu le disais, de très onirique, c'est-à-dire que cette personne qui est un autre SDF est en train de mourir, on comprend que c'est une personnalité peut-être influente, etc. Il lui donne une pochette dont on ne saura le contenu qu'à la fin, et en fait il y a quelque chose de très onirique où tu es persuadé qu'au dernier moment il va dire qu'en fait c'est le roi de quelque chose, d'une planète d'ailleurs, enfin il y a quelque chose d'assez chouette, et je trouve que ça vaut le coup de le voir sans se dire que c'est un film de Satoshi Kon, et vraiment je vous conseille de le regarder en même temps qu'Anastasia parce que c'est assez impressionnant à quel point il y a une empreinte américaine dans ce film, je trouve, même si ça se passe à Tokyo, c'est une ode à Tokyo, vraiment c'est une ode à la ville, Mais il y a quelque chose de très américanisé, je trouve, qu'on ne retrouvera pas du tout dans Paprika après.
Et on peut signaler aussi qu'il a dirigé, je ne sais pas s'il a réalisé tous les épisodes, qui je crois sont confiés à des animateurs assez différents, mais il s'est occupé de la série Paranoia Agent, qui malheureusement n'est pas disponible.
Oui, en fait,
il y a des vieux DVD, mais c'est tout.
C'est un peu dans le même profil que la saison 2 de Twin Peaks, c'est-à-dire qu'en fait c'est lui qui a donné la trame narrative en fait, et c'est réalisé à chaque fois par des réalisateurs différents. Maintenant ça se fait bien plus souvent, Scorsese fait ça, etc. Mais à l'époque c'était pas si réputé, on en avait parlé pour Matrix avec les Animatrix, mais c'est un peu le même procédé, c'est-à-dire qu'en fait il donne un peu le présumé de départ, et après chaque réalisateur le fait à sa sauce, et dans ce contexte-là les animateurs le font à sa sauce.
Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter sur Satoshi Kon avant qu'on passe peut-être au Rocco ?
Non, mais à part que...
Je pense qu'on a, oui, on a fait
ouais,
le tour.
Je pense qu'on a fait le tour parce qu'en fait, on retrouve un peu, du coup, sauf dans Tokyo Godfathers, et encore, on en retrouve un peu, mais des thèmes fétiches à Satoshi Kon. Et notamment un aussi qu'on n'a pas évoqué, mais enfin vous l'aurez compris, c'est le fait d'avoir toujours des personnages féminins principaux et forts, et un peu ballotté par les événements au final. C'est un thème qu'on retrouve du coup au moins dans les trois premiers dont on a parlé. Et finalement, là où j'étais très très content d'avoir découvert son cinéma, c'est que les films d'animation, et ça on le sent bien aussi dans le documentaire, on voit qu'ils ont une puissance égale, voire supérieure, à ce qu'on peut faire dans des films en prise de vue réelle. C'est ça qui donne toute la magie de ces films, et c'est pour ça que je pense que je les ai autant aimés, et j'ai autant aimé leur visionnage.
Merci pour cette belle conclusion sur cette chicane. On rappelle que le film sera projeté dans le cadre du Breakfast Club Ciné Club le 15 mars prochain, donc si vous nous écoutez en direct, c'est dans pile une semaine.
Oui, on peut réserver les places sur le site, du coup ce sera au Brady.
Et on recommande aussi de suivre le Breakfast Club Ciné Club sur Instagram.
Et le Brady, qui est un cinéma partenaire des cartes UGC, si jamais vous en avez une.
Oui, merci à toi de l'avoir rappelé parce qu'on l'oublie toujours.
Eh bien, maintenant, passons. Nous n'avons toujours pas de jingle pour cette partie. Et passons au Rocco. Donc, je vais commencer avec toi, Adeline, car je crois que tu as une Rocco qui a été un peu le fil rouge de toute l'émission.
Le fil rouge de cette émission, je n'ai peut-être pas le lien.
Satoshi Kon, illusionniste.
Ah, c'est la mienne, par contre.
Oups. Ah bah vas-y,
alors. Je voulais
la t'avais
je n'ai pas attrapé la perche que m'a donnée Nicolas, non, je ne la trouve pas, donc... Non, bah vas-y, je ne sais pas ce qu'il faut.
Mais en effet, c'est une recommandation un peu pour aller plus loin sur Satoshi Kon, sur son œuvre. C'est donc Satoshi Kon, l'illusionniste, qui est sorti en 2021. Et c'est un documentaire de Pascal Alex Vincent, réalisateur et scénariste français, et ça m'a fait sourire quand j'ai vu que c'est lui que vous receviez pour votre ciné-quiz.
C'est ça, il animera le ciné-quiz pour Paprika, donc c'est plutôt cool.
Dans une semaine donc, et c'est un documentaire, du coup on va pouvoir en faire une petite discussion.
Oui, je pense qu'on l'a tous les trois vu.
Un documentaire à la forme à la forme assez classique, c'est des extraits donc de ses quatre films et de sa série, mêlés d'interviews de personnes avec qui il a travaillé ou de personnes qu'il a influencées. T'en as déjà parlé, il y a un témoignage qui est très fort, c'est celui de la doubleuse de Mina dans Perfect Blue, qui raconte elle-même avoir vécu des agressions, avoir été elle-même une idole. Donc il y a ce genre de témoignages forts.
Et on en parlait avec Nicolas aussi, en termes de témoignages, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une ode au réalisateur. Et c'est plus un...
À ce niveau-là, je suis un peu dubitatif, parce que je crois que c'est un documentaire qui a été produit par les ayants droit de Satoshi Kon, et il faut le garder à l'esprit, parce qu'il reste quand même élogieux, mais on sent... Mais ça va pas très loin, mais on sent quand même que ça a pu être dur de travailler avec lui. Apparemment, il avait toujours certaines remarques ou certaines critiques pas très bien senties, un caractère jugé parfois détestable, et des méthodes de travail aussi très dures. À un moment, ils disent qu'il était conscient de son génie, conscient de son talent. Du coup, il avait vraiment une rigueur extrême et... envers lui-même et envers ses équipes, et ça m'a fait penser un peu à Kubrick, qui était lui aussi conscient de son génie et qui imposait un rythme de travail et une rigueur presque tyrannique
mais
aux gens
coup,
avec qui travaillaient.
C'est intéressant parce que ça questionne aussi un peu la mégalomanie du personnage et le fait que pour autant Certains collaborateurs ne parlent pas du tout de ça, notamment l'animatrice avec qui il a travaillé et qui l'a formé. Donc on pourrait penser que c'est la personne qui a un rapport plus dur avec lui parce qu'il y a eu un rapport d'autorité. Et souvent, c'est les personnes qui ont été collaborateurs de Satoshi Kon qui râlent un peu. Donc je pense que c'est plutôt d'ego à ego que ça coince un peu.
Peut-être.
Et du coup, c'est assez intéressant parce que ça questionne un peu cette aura du réalisateur. Aussi le fait que finalement, il n'a pas été énormément reconnu de son vivant. En tout cas, il y a eu un gros succès pour Paprika et donc pendant 4 ans avant sa mort, donc c'est quand même assez impressionnant. Mais il y avait quelque chose de... il n'a pas réussi à profiter non plus de son talent et c'est vachement ce qui est reconnu à la fin. C'est le fait que finalement, il y a quand même eu une perte de talent avec sa mort et quelque chose qui était assez impressionnant. Mais c'est vrai que c'est un très bon documentaire qui est assez court et qui est disponible sur OCS. Donc si jamais...
Et il y a une partie documentaire aussi que j'ai bien aimée. C'est parce que... Enfin, une partie. C'est quelque chose qu'on lit un peu entre les lignes. Du coup, j'ai plutôt creusé en faisant des recherches après. En fait, on voit que Satoshi Kon, il se questionne sur son identité de genre. Et finalement, je trouve que ça confère un caractère assez personnel à une thématique qui est très présente, je le disais, des personnages féminins forts. Et en fait, il y a une animatrice, Aya Suzuki, qui rapporte des propos du réalisateur disant que il se représentait, lui, et il se voyait, il mettait de lui dans ces personnages féminins-là. Et je trouve, du coup, ça donne une toute autre lecture des films après avoir vu ce documentaire. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Nico.
Ah oui, c'est un documentaire peut-être trop court, en fait, pour son sujet, malheureusement. Mais c'est passionnant que ça ne soit pas un tout archive et que vraiment ça aille au plus près des collaborateurs, du coup, de Satoshi Kon, y compris donc au Japon, et y compris dans ces zones d'ombre, donc ils sont pas non plus totalement qui vont pas totalement au bout. On se doute que les ayants droit qui produisent le truc vont pas non plus permettre qu'on dise trop du mal de Satoshi Kon, mais c'est intéressant de pas voir non plus, il y a beaucoup trop de documentaires qui sont en mode c'était un génie vraiment, il est parfait, il est incroyable. Et là on sent que humainement ça devait être compliqué de travailler avec lui, mais que pourtant c'était quand même très intéressant. Et j'ai lu qu'il avait aussi, je sais plus s'il en parle dans le documentaire, mais il a quand même fait une genre d'association pour réduire le nombre d'heures de travail des animateurs et animatrices japonaises. Et une des animatrices témoigne d'ailleurs du fait qu'il était quand même engagé dans ce sens, donc il n'était pas non plus tyrannique avec tout le monde et tout le temps.
Oui, c'est pour ça que je pense qu'il y a plus un questionnement de, en tant que personnalité créatrice, où en fait finalement c'est surtout ses collaborateurs producteurs je pense que c'est l'auteur de Cowboy Bebop dont j'en ai parlé, qui a essayé de créer un manga avec lui et ça s'est mal passé. On t'y parle qu'en fait la collaboration s'est mal passée, mais en fait du coup c'est plus, je pense, une question de collaboration plus qu'une question de travail et d'autorité. Et je pense que c'est quelqu'un qui conscientisait, oui, notamment sur l'animation, ce qu'il fallait faire, et peut-être pas un mania de vraiment tyrannique. Je pense que c'est plus une vision d'un ego très important et d'une confiance en lui, en fait. Je pense aussi que c'est ça qui est lié, c'est qu'il avait vraiment confiance en ce qu'il faisait et il était contre la collaboration, quoi. C'était juste plus compliqué.
Mais ouais, du coup, comme le disait Nicolas, je pense une personnalité complexe.
Et donc, vous l'avez dit, c'est dispo notamment sur OCS, je ne sais pas pendant combien de temps. J'aimerais souligner aussi le fait que c'est dispo en édition physique et c'est assez rare pour des documentaires de ce genre.
C'est distribué par Carlotta, je crois.
C'est ça, c'est par Carlotta. Et il y a une édition simple en Blu-ray. Il y a aussi une édition collector, donc avec des petits goodies, des petites affiches, des petites cartes postales. Et je trouve que c'est vraiment une super initiative et je pense un risque. Parce que je sais. Enfin, de toute façon, le Blu-ray, j'ai lu encore que c'était un marché qui était toujours assez mineur au final. Et qu'un éditeur comme Carlotta prenne le temps de faire des belles éditions et des beaux objets pour ce genre de documentaire.
Ils le font
ça
souvent, Carlotta, de toute façon, des très belles éditions et rééditions. Donc c'est un peu leur credo aussi, parce qu'ils sont aussi connus pour ça et qu'il y a une base niche aussi pour ce genre de réédition. Donc c'est trop cool qu'ils continuent de faire ça.
Et ça vient de sortir, je crois. Donc on vous le conseille. Est-ce que Maï, toi, tu aurais une petite reco mandation culturelle?
Oui, j'y pensais en venant et je pense que je vais la faire celle-là. C'est King Max, c'est un court-métrage de Adèle Vicenti-Crasson, diplômée de la FEMIS. Donc c'est un film qui raconte, en gros résumé, une jeune personne qui se questionne. Tu connais ?
Il a été sélectionné au Festival de Cannes.
Oui, Festival de Cannes, c'est ça. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe et de discuter un peu avec eux. Et enfin, voilà, très, très beau moment. Et donc c'est un film qui parle d'une jeune personne qui se questionne sur son genre, justement, son apparence physique et qui explore, du coup, qui se regarde et qui, sur un élan d'émotion, sort et découvre un club de drag king. et qui, du coup, c'est une sorte d'explosion sensorielle et de questionnement. Et le drag king, pour un peu juste expliquer en deux mots sans forcément trop vouloir... C'est en gros, c'est le fait d'explorer et de déconstruire et de s'amuser avec les clichés du genre, entre guillemets, masculin. Et c'est un art, pour le coup, performatif. Donc, ça est sur la scène, etc. C'est vraiment un art total et presque à dimension presque spirituelle. Enfin, c'est quelque chose d'une vraie transformation et de transposition. Et souvent, il y a une interview de l'équipe sur Arte qui en parlera bien mieux que moi, de toute façon, parce que c'est, voilà, c'est pas non plus mon milieu non plus, mais c'est un film qui m'avait vraiment bouleversé à titre personnel aussi. Et voilà, donc je voulais en parler parce que c'est une très belle œuvre.
Et si je ne m'abuse, l'interview d'une des actrices du film sera bientôt sur un média digital qui commence par Breu et qui finit par Hut.
J'ai l'impression que tu en as déjà parlé. Je sais pas si c'est de ça dont tu parlais.
Mais oui, une très bonne interview, je pense.
Toi, Adeline, un petit truc à nous prendre. On a encore le temps, on a encore une petite dizaine de minutes.
Pour continuer sur le cinéma d'animation, il y a un film d'animation sur Netflix qui s'appelle The House, qui est un film en trois parties. Avec une esthétique qui ressemble un peu à Fantastic Mr. Fox.
Oui.
Et qui est pas mal. Alors, moi, je suis très peureuse, donc j'ai arrêté au bout d'un moment, parce que, du coup, le côté assez attrayant d'un film en trois parties, c'est que tu peux t'arrêter dans certaines parties, puisque finalement, toutes sont assez indépendantes. En fait, c'est juste une même maison. Et l'histoire de cette maison, et en fait, la qualité de l'animation est exceptionnelle. C'est en... Alors, je sais pas vraiment comment ça s'appelle, mais un peu comme Chicken Run que t'as cité tout à l'heure. Mais voilà, c'est... Et Gromit, c'est de la stop motion.
C'est ça. Voilà.
Et avec beaucoup d'éléments, notamment de la paille, des choses comme ça. Et en fait, c'est très très beau. Ça fait très très peur. Le premier épisode fait un peu peur. C'est l'histoire d'une, du coup, une maison qui est un peu hantée. Enfin, qui est pas vraiment hantée. C'est une proposition, en fait. On offre à une famille une maison qui est toute frais payée, on va dire, qui se gère toute seule. Et la seule condition, c'est d'habiter dans la maison qui a été conçue par un architecte, dans la vision qu'avait l'architecte. Et en fait, c'est vite assez oppressant. Et je pense que le jeu de l'animation est assez fort dessus. Je vous conseille vraiment de regarder, au moins pour la première... pour la première histoire qui est vraiment sensationnelle. La seconde me faisait un peu plus peur parce que du coup dans la première c'est vraiment des images, enfin c'est des visages humains, et dans la seconde c'est vraiment fantastique. Mr. Fuzz, c'est un chat, des rats, des cafards et tout, donc j'avais un peu peur. Mais je vous conseille en tout cas pas la nuit, mais un jour où il fait très beau comme aujourd'hui, pourquoi pas. Et enfin j'ai regardé hier soir, ça vient de sortir je pense et ça sera toujours disponible quand le podcast sortira, mais c'est le dernier film de Jean-Pierre Jeunet.
Ah, tu l'as déjà vu ?
J'ai vu.
Ah, cool.
Hier soir. Bon.
Est-ce bien une recommandation ?
Après, dans la dernière émission, on a initié les contre-recommandations.
C'est vrai.
Est-ce que c'en est une ?
Bah, je pense que c'est pas forcément une contre-recommandation parce que le début est très laborieux du film. Ça part sur beaucoup d'a priori, sur beaucoup de choses qui font un peu boomer à la fin. T'as un peu envie de dire, bon, c'est un peu lourd sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles choses comme ça. Enfin. Et en fait, ça a un côté un peu huit femmes. C'est un huis clos. Et il y a quelque chose de... C'est une comédie française. Ça a très peu à voir avec ce que fait Jean-Pierre Jeunet, même si dans l'esthétique, il y a quelque chose comme ça. Mais j'ai trouvé que c'était peu poétique. Et que du coup, c'était assez décevant pour ça. Il y avait peu de poésie dans le film, mais qu'il y avait quelque chose de... une proposition qui était intéressante. Et surtout, je pense qu'il a travaillé avec des décorateurs d'exception. Et rien que pour ça, c'est un film qui est très très beau esthétiquement parlant, et notamment sur les décors en fait. Il y a un moment, il y a une chaise qui, en fait, tout est fait de façon très moderne. En fait, c'est censé se passer dans les années 2080 ou des choses comme ça. Et en fait, tout est fait pour se déplier, se replier, être très très utile. Et je pense que bon, c'est un film que je reverrai pas. Ça fait partie de ces films qu'on revoit pas. Ouais. Mais pour l'esthétique, quand même, encore une fois, il y a quelque chose qui se joue. Chez Jean-Pierre Jeunet, je trouve que c'est un peu dommage qu'il n'ait pas fait de film depuis aussi longtemps et qu'il revienne avec un film qui finalement est pas très fort.
Mais en vrai, peu de gens veulent le produire, en fait. C'est ça l'ennui.
Oui.
Et c'est la tristesse, mais c'est vraiment ça. C'est pas lui, c'est juste qu'on lui donne pas les fonds nécessaires pour faire ce qu'il veut aussi. Et
parce que
très
je pense
dommage.
Que le film a coûté très cher en soi.
À Netflix, quoi. Mais il y a qu'eux qui ont des gros portefeuilles à donner comme ça, malheureusement, maintenant.
C'est ça, mais j'ai trouvé que pour l'histoire, c'était peut-être un peu dommage. Enfin, genre, j'ai trouvé que c'était pas exceptionnel et un peu décevant, du coup. Mais je conseille à regarder au moins pour l'esthétique. Et justement, je pense qu'il y a vraiment un investissement économique qui est dingue dans ce film. Et les acteurs sont bons finalement. T'as quand même des très bons acteurs. Il y a Isabelle Nanty, on refuse jamais Isabelle Nanty.
Tu parlais des films qu'on voit et qu'on revoit. Bah, je parlais d'un film qu'on revoit, qui est tout simplement Onoda. Donc ce film de Arthur Harry que vous avez recommandé lors de sa sortie, lors du Festival de Cannes aussi, et qui est sorti en fin décembre en Blu-ray et en DVD. Donc Louis, je t'ai passé tout à l'heure le DVD
merci
que l'éditeur nous a gentiment envoyé avec le Blu-ray aussi. Donc j'ai le
merci
Blu-ray
encore et merci
chez moi. C'est édité par Le Pacte, citons-les. Et Onoda, c'est un film que j'ai pas encore pris le temps de le revoir, mais je me suis juste rematé quelques extraits. Ce que je l'avais vu, lorsque je l'avais vu, c'était des conditions un peu particulières car j'étais assez fatigué. Mais pourtant, ça m'avait fasciné.
C'était à Cannes par hasard?
C'était tout à fait. Pour Radio Campus Paris, soulignons-le.
Dans un cadre professionnel.
Exactement. Bénévole, mais professionnel. Et c'est un film qui, non seulement, j'ai envie de le revoir, donc, en Blu-ray, vraiment, c'est l'hermétique. Il y a vraiment un grain très particulier, une esthétique incroyable, alors que c'est un second film français, relativement petit budget, hein, c'est même pas 5 millions d'euros, ce qui est petit pour, même pour un film français, c'est la moyenne, mais c'est pas énorme. Et surtout, c'est une édition qui comporte 1h30 de making-of. Et ça, je trouve que c'est un truc, vous savez, que je trouve ça passionnant. Et c'était pas un making-of à proprement parler de ce que j'ai regardé, parce que pour l'instant, j'ai vu que des extraits, qui n'a pas été tourné entièrement sur place. Mais c'est une discussion avec l'équipe du film, qui est entrecoupée par des images justement derrière les scènes, quoi, en making-of. Et je trouve que c'est passionnant de pouvoir avoir encore 1h30 de documentaire sur comment on a fait ce film, comment s'est débrouillé avec les intempéries, que je crois que des décors entiers ont été détruits, ils ont dû le reconstruire en pleine jungle, etc. Et voilà. Et surtout, il y a d'autres courts-métrages de Arthur Harry qui sont dispo sur le Blu-ray et sur le DVD.
Oh, wow.
Donc c'est incontournable, car c'est, je le rappelle, le meilleur film français de l'année qui n'a pas été nommé au César, ou pour seulement 2 nominations.
Mais tu le vends très bien, et c'est vrai que ce film est dans mes souvenirs très long, et pour autant on ne voit pas passer du tout le temps, et donc je me dis que même si les documentaires durent 2 heures de plus, pourquoi pas ? Parce que finalement c'est vrai que c'est intéressant de s'imaginer comment ça a été fait, ça m'étonne pas du tout qu'il y ait eu beaucoup d'intempéries, et je pense que oui, c'est un film... très très fort, et c'est dommage qu'ils aient pas eu de nomination à...
Ils ont eu, mais je crois que c'est... soit pour les décors, soit pour quelque chose comme ça, mais c'est pas pour meilleur film, alors que clairement je trouve que ça l'aurait largement mérité, mais comme d'habitude, les Césars ont leur raison que le cœur ne comprend pas.
Boycotton.
De toute façon, c'est déjà passé à l'heure où est diffusée cette émission.
Bah, on aurait boycotté alors.
Et Louis, justement, tu parlais des transitions incroyables dans Paprika, et tu verras, dans Onoda, il y a aussi une des plus belles transitions de l'année entre deux époques différentes. Est-ce que vous avez une autre petite recommandation peut-être avant de conclure l'émission?
Moi j'en ai une. Alors c'est un peu l'autopromo, du coup désolé, mais en même temps je suis pas obligée de le faire. C'est un nouveau projet des cinémas indépendants parisiens qui s'appelle l'Open Screen Club. C'est une scène ouverte 2 fois par mois dans 10 salles indépendantes parisiennes. Et donc c'est vraiment des soirées où on peut projeter son court-métrage de moins de 8 minutes, je précise. Et c'est vraiment ouvert à tout le monde. Peu importe, ça peut être une fiction, du documentaire, enfin tout ce que vous voulez. Et c'est ouvert 2 fois par mois, encore une fois, dans des cinémas indépendants parisiens. Et on peut... Pour enregistrer son film, il faut que je t'envoie son film à l'adresse openscreenclub@gmail.com, et c'est MacPac qui vous répondrait, parce que je suis en stage là-bas maintenant. et voilà. Et c'est ouvert un mois avant chaque séance, on a des appels à films, et du coup, les premiers arrivés sont les premiers servis. Et voilà, donc c'est ultra démocratique, il n'y a pas de sélection, c'est vraiment scène ouverte pour les films, et c'est trop beau de voir les réalisateurs sur scène, et ils sont contents, on est contents de voir des nouvelles choses, et voilà. Donc inscrivez-vous et venez aux soirées.
C'est dans,
après
c'est
on
dans
va
quel
au bar en plus, donc c'est trop cool.
C'est dans quel cinéma?
C'est dans 10 salles indépendantes parisiennes, okay, donc pour le coup, tout est sur le site internet, tout est très clair là-dessus, et voilà, la prochaine, du coup, là, c'est le 6 mars, ce sera le 11 avril, je crois, la prochaine, au Balzac. Voilà.
Bah, très bien.
Et j'en profite pour parler d'un petit cinéma qui, pour autant, est très grand et qui a beaucoup d'importance pour nous. C'est le cinéma La Clé,
oui.
Dont il faut quand même soutenir et aller aux projections et faire en sorte que ce site ne soit pas fermé, alors que c'est super intéressant. Pendant le confinement, ils ont continué à projeter sur les murs de Paris. Mmh. Ils font énormément d'efforts. Les places sont à prix libre, vraiment... C'est super, ils font tout le temps des conférences avec des gens géniaux, et c'est soutenu par toute l'industrie du cinéma, et c'est vraiment extrêmement dommage.
Il y a de plus en plus de soutien. au fur et à mesure, ça prend de l'ampleur. Donc, j'espère qu'on va finir par y arriver et que
il y a des propositions citoyennes pour racheter le cinéma carrément. Ouais. Donc, vous pouvez participer pour quelques euros à prendre des petits parts dans le cinéma indépendant. C'est vrai que c'est très important de continuer à soutenir les cinémas indépendants. On est sur une radio indépendante et étudiante, donc c'est le bon le bon endroit pour en parler. Ben, on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici. On espère que ça vous aura donné envie. On va peut-être rappeler les dates des prochaines projections au Breakfast Club Ciné Club. Je retrouve mes fiches. Donc, Paprika, le 15 mars prochain, évidemment. Cemetery of Splendor, le 19 avril. Et je vous le conseille, surtout s'il y a de la méditation avant.
Ah, oui.
Ça doit être incroyable parce que c'est un film que j'avais vu au cinéma Le Gyptis à Marseille et qui m'avait fait entrer dans un état méditatif, comme peu de films l'ont fait avant et après. Je m'étais endormi, pour tout vous avouer, mais c'était pas un endormissement. C'est pas grave, justement. C'est fait pour.
Les meilleurs cinémas sont quand on s'endort.
Je suis bien d'accord.
C'est très vrai, ça.
Il y aura ensuite Réalité de Quentin Dupieux le 17 mai. On vous renvoie vers notre épisode. Vous apprendrez des magnifiques anecdotes, n'est-ce pas, qui nous sont arrivées avec Quentin Dupieux. On vous renvoie pour cela à la séance du dimanche, qui est donc disponible sur Spotify et sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur Radio Campus Paris. La prochaine émission, ça sera sur Devdas, peut-être, je ne sais pas.
Inch'Allah, peut-être. Et juste pour terminer, j'aimerais rendre hommage à une personne qui nous est chère, parce qu'il n'y a pas Lucas aujourd'hui, ni Victor, mais il y aura quand même Serge au platine pour nous aider et pour rattraper tous les cafouillages de l'émission.
Oui, il en aura beaucoup besoin, car il faudra réaugmenter tous les niveaux, etc. Donc, eh bien, merci de continuer à nous aider. La séance du dimanche, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve début avril pour une émission consacrée à Devdas, normalement, et prochainement au cinéma coréen. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram ainsi que le Breakfast Club Ciné Club. À bientôt.
Merci beaucoup.